Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
Bonjour à tous, bienvenue dans La Conspiration des Planches, votre magazine critique des arts de la scène sur Radio Campus. Une demi-heure pour décrypter l'actualité des créations sur les planches bruxelloises. Et à mes côtés pour en parler, Olivier et Catherine, bonjour.
Bonjour.
Voilà, voilà, on va faire le tour un petit peu des créations de la semaine. On sent que les théâtres sont starting block, tout a bien démarré. On ira du côté du National pour Ghost Road, la nouvelle création de Fabrice Murgia. On ira se moquer du crocodile du côté de la Samaritaine. Est-ce que c'est un bon conseil? Ça, on ne le sait pas. Extrême Tension, ce sera du côté du Kai Théâtre de la Danse. Les Misérables au Théâtre du Parc, le classique de Victor Hugo, 150 ans après sa publication. Et enfin, avec un, si on a encore un petit peu de temps, on fera quelques annonces et peut-être aller voir aussi du côté de l'éveil du printemps au public. Les routes fantômes américaines maintenant au programme de la nouvelle création de Fabrice Murgia. Il n'est pas tout seul sur cette création, Olivier. Il est avec un musicien d'ailleurs et ça se passe au Théâtre National.
Voilà, c'est un casting assez prestigieux. C'est une initiative de la maison de production LOD, maison de production de Gand, qui est spécialisée dans le théâtre musical et l'opéra contemporain. Ils ont demandé à Dominique Poels, un de leurs compositeurs, de travailler avec un metteur en scène francophone, qui va être Fabrice Murgia, le prolifique Fabrice Murgia, puisque c'est son sixième projet en 3 ans.
Très en vogue hein, comme artiste.
Très en vogue, très 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 en vogue. Et je pense qu'il a une certaine pression, une attente en tout cas du public. Va s'y adjoindre à ce projet la célèbre comédienne Viviane Demain, qui est vraiment un monument dans le théâtre belge, francophone tant et néerlandophone, et Jacqueline Van Quay, qui est une grande soprano, qui a aussi écumé les opéras en Belgique et dans l'Europe, plus un caméraman qui va faire les prises de vue aux États-Unis, Benoît Dervaux, qui a été le cadreur de quelques films des frères Dardenne. Donc voilà, sur le papier, c'est des noms qui donnent envie et qui annoncent un projet à la fois prestigieux et bon, voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est la première fois en tout cas que Fabrice Murgia intègre dans son équipe des personnes qu'il n'a pas nécessairement choisies.
Et sur une génération qui n'est pas la sienne,
parce
que d'habitude, ce sont des distributions plus jeunes, hein.
Voilà, d'adolescents ou de jeunes adultes. Et le point de départ de ce projet, ça vient de son précédent justement projet, Dieu est un DJ. Lorsqu'il est parti aux États-Unis, il a longé la route, il a retracé la route 66 qui traverse les États-Unis de l'est en ouest. Et il a traversé des villes fantômes justement. Et ça lui a laissé des traces. Il a voulu retravailler là-dessus. Il est reparti en juin de cette année avec Dominique Poels, le musicien, et Viviane Demanck pour y récolter du matériel avec le caméraman également. Et il voulait parler de ces villes fantômes, de ces villes qui ont été fréquentées, habitées pendant toute une période avec une vraie vie et qui aujourd'hui sont désertées et dans lesquelles ne vivent que des personnes d'un troisième, voire quatrième âge, qui ont connu un monde qui a totalement disparu. Et il voulait parler de ça, c'est le point de départ. Et la pièce commence par Viviane Demanck, donc c'est dans la grande salle du National, qui est seule face à un bureau sur lequel sont posées des photos de proches, d'amis qu'elle regarde. Et elle parle de sa vie, donc sa vie à elle, ou imaginée. Et elle va nous raconter l'histoire d'un des personnages qu'elle a rencontré dans une de ses villes fantômes, qui est une ancienne danseuse de cabaret, Martha Beckett, qui a été danseuse dans les années 40-50 à New York, à Broadway, qui a notamment dans Showboat. et qui, lors d'une tournée au début des années 60 en Californie, est tombée en panne et elle s'est retrouvée dans une des villes sur cette route 66 et elle est tombée amoureuse de cette ville et elle y est restée. Donc depuis début des années 60 jusqu'à aujourd'hui, elle vit dans cette ville fantôme et elle y a repris un cabaret qui s'appelle, si je me souviens bien, la Margosa Opera House. Et elle y a travaillé jusqu'à février cette année, donc jusqu'à plus de 80 ans.
Ah bon ?
Et donc voilà, c'est un peu le récit qui va servir de fil conducteur à la pièce, qui va nous être raconté par Vivienne Demingue, dans lequel Vivienne Demingue va aussi parler de sa propre vie, comme quoi aujourd'hui, à plus de 60 ans, elle a encore envie d'être sur scène et elle a encore envie de donner des choses, du bonheur aux spectateurs. Donc voilà, le parcours de Martha Beckett et le parcours de Vivienne Demingue se confondent. Ce fil conducteur est entrecoupé par des arias classiques chantées par la soprano qui est également sur scène. Donc c'est aussi une dame d'un certain âge qui a plus de 70 ans, qui marche avec une béquille et qui chante avec une voix un peu usée. Et la musique est retravaillée en direct par Dominique Poels. Donc ce sont des airs d'opéra classique de Puccini. Moi j'ai reconnu Manon Lescaut, la Tosca, je pense qu'il y avait du Verdi.
Les voix aussi sont retravaillées ?
Non, la voix n'est pas retravaillée, simplement la musique. Donc on a vraiment... voilà. Musique plutôt électronique. Hein. Donc, c'est vraiment, on est loin du bel canto italien du 19e.
Et l'ambiance visuelle, puisque Fabrice Murger est surtout connu pour dessiner des paysages visuels assez impressionnants.
Et utiliser la vidéo notamment.
Voilà, ici, il a fait quelque chose de plus sobre. Donc, on commence quand Vivienne Demingue est seule sur ce grand plateau face au public. Elle est filmée en direct et son image est projetée derrière elle en grand. Donc, c'est son visage de femme de plus de 60 ans qui a un certain vécu. Donc on est confronté aussi en tant que spectateur à l'image d'une personne qui n'est pas très glamour. Et puis vers la moitié du spectacle, l'écran s'abaisse et là sont projetés des extraits d'interviews qu'il a fait en juin 2012 dans ces villes fantômes. Et donc on a le portrait de trois personnages, trois hommes, un ancien maître d'algeur qui draguait quand il était jeune et qui se retrouve là aujourd'hui à plus de 60 ans aussi un peu désœuvré, qui regrette un peu. En fait, le point commun de ces personnes, c'est le regret d'un monde qui n'existe plus.
Parce que je crois que Fabrice Murger avait parlé aussi de l'isolement de ces personnes. Un isolement choisi ou forcé, c'est ça aussi la question qui se pose ou pas dans ce spectacle ?
Oui, ils sont seuls parce qu'ils ont décidé de rester dans ces villes et donc ils continuent à cultiver ou en tout cas à vivre dans un passé et ils ne veulent plus être confrontés à l'époque d'aujourd'hui puisqu'ils refusent d'aller dans les villes où il y a tout le confort. Donc ils restent dans une douce mélancolie. Mais voilà, la mélancolie pour moi, elle avait du mal à passer. L'émotion, elle était assez difficile à passer le cap de la scène.
De par le dispositif scénique ?
De par le dispositif scénique. Vivienne Demingue, je trouve qu'elle est un peu perdue dans cet grand espace. Et je pense que le texte aussi, voilà, il n'y a pas grand-chose qui est dit sur la solitude, sur l'âge. C'est des banalités finalement. Donc moi, je pense que par rapport à l'âge...
Et l'âge d'or passé d'une certaine Amérique aussi peut-être, non ?
Plutôt les conséquences des décisions politiques, pourquoi ces villes sont devenues désertes, donc ça c'est un peu évoqué, et aussi la crise des subprimes qui aussi crée de nouvelles villes désertes aujourd'hui, donc ça c'est un peu évoqué.
Et c'est le début d'une trilogie, si j'ai bien compris, ce Ghost World.
Voilà, donc il y aurait normalement deux autres parties, une autre qui va avoir pour thème le Chili et les mineurs chiliens, et une troisième autour d'une ville qui a connu une catastrophe nucléaire, Tchernobyl ou Fukushima.
Et on peut peut-être noter aussi que Vivienne Demingue sera au Tanner dans quelques semaines avec une autre comédienne ou danseuse, je ne sais plus, dans un spectacle qui s'appelle La Mouche, l'Archange, qui dure très peu de temps. Alors si vous êtes fan de Vivienne Demingue, il faut aller voir.
Et là, je pense que le rapport de proximité sur le plateau des Tanner sera beaucoup plus intéressant qu'au national, où là il y a vraiment la distance en paix justement cette intimité et cette émotion.
Mmh. Isolation et seulement dépeuplement de l'Amérique profonde, c'est dans Ghost Road, un spectacle de Fabrice Murgia avec la participation également de Dominique Poels. C'est à voir jusqu'au 6 octobre au Théâtre National, www.theatrenational.be. On va dans un tout autre lieu, je crois 100 fois plus petit peut-être, c'est la Samaritaine.
Ah oui, là on ne peut pas être plus à l'opposé, la petite Samaritaine dans les Marolles, qui est un lieu toujours hyper sympathique. Moi j'adore aller à la Samaritaine, on se retrouve dans cette petite cave voûtée, on ne peut pas faire rapport plus intime que ça. Et je suis allée voir Celui qui se moque du crocodile n'a pas traversé la rivière, qui est une production de la Maison Éphémère.
De Guy Tenissen également.
De Guy Tenissen et François Eboué. Et ça, c'est important parce que ça parle de l'Afrique et de l'Europe, de leur rapport très complexe. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a pour une fois la vision d'un blanc qui raconte ce que c'est que d'être un blanc quand on va en Afrique et la vision d'un noir qui raconte ce que c'est que d'être un noir quand on vient en Europe. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que souvent, en Belgique, on parle finalement beaucoup de l'Afrique, on parle de l'immigration, on parle de plein de thématiques liées à l'Afrique, mais c'est toujours un peu casse-gueule parce qu'il y a ce lourd poids du passé colonialiste qui est là et qui fait que, quoi qu'on fasse, on est souvent, je trouve moi, dans un discours paternaliste quand on parle de la Belgique. De l'Afrique en Belgique. Je pense notamment au spectacle Odyssée qui se joue actuellement au Poche, qui a des qualités, mais qui est aussi très, très, très didactique. Mmh. Et forcément, quand on est dans la dénonciation, on devient un petit peu moralisateur. Alors que là, pas du tout, puisqu'on a deux visions parallèles, deux histoires singulières, deux histoires vraies, authentiques. Et donc, c'est très, très simple. C'est donc Guy Tenissen et François Eboué qui sont tous les deux artistes. François Eboué vient du Cameroun, Guy Tenissen est né en Belgique, et ils racontent à la fois leur parcours d'artistes, chacun de leur côté, chacun sur leur continent. Ils racontent leur rencontre par le biais d'un festival en Afrique, ils racontent leur histoire, leur amitié, et à travers ça, ils se posent plein de questions, ils se disputent parfois, et ils suscitent des questions auquel on a tous pensé, et je trouve que ce spectacle résume à merveille la difficulté, parfois l'impossibilité, de parler de l'Afrique quand on est européen. Et donc voilà, par exemple, Guy Tenissen explique que quand il va en Afrique, qu'il prend un taxi, on lui dit « toi le blanc », ça l'énerve. Et dit à son copain, collègue, artiste sur scène, « imagine toi t'es sur la Grand Place et on te dit « et toi le noir ». Et alors il se fâche et dit « mais c'est pas la même chose, tu sais bien pourquoi c'est pas la même chose, il y a toute une portée bien plus raciste ».
Derrière les mots, il y a beaucoup de choses.
Voilà. Et ce sont des choses très simples, mais dites avec beaucoup de simplicité. Et surtout, on ressort de là très nourri parce que ça traverse toute leur histoire avec plein de petits repères historiques. Donc par exemple... on va parler des premiers pas sur la Lune, de l'élection de François Mitterrand, mais à chaque fois, c'est prétexte à mettre en parallèle l'histoire des deux continents. Par exemple, Guy Tenissen raconte la ferveur qu'il y avait autour de l'élection de François Mitterrand, et en parallèle, François Eboué rappelle que pendant toute la période du règne de François Mitterrand, l'Afrique a connu coup d'État sur coup d'État soutenu par beaucoup de pays européens, et beaucoup d'intérêts stratégiques, économiques, avec toutes les compagnies pétrolières qui est là-bas, tout le pillage des ressources qui se fait, et que donc finalement l'Afrique, pendant toute cette période-là, a continué de se ruiner, de s'appauvrir. En même temps, Guy Tenissen lui dit « oui, mais écoute, moi j'en ai marre que... on me dise qu'on me balance la colonisation à la figure. Moi, j'étais pas née à l'indépendance du Congo, j'ai colonisé personne. Est-ce qu'on peut pas un peu dépasser tout ça ?» Et voilà, on est constamment dans un ping-pong comme ça qui montre qu'en fait, tout n'est pas si simple, qu'il n'y a rien de manichéen dans cette histoire entre la Belgique et l'Afrique, entre l'Europe et l'Afrique. Et puis surtout, on se souvient, alors il y a des extraits du discours de Nicolas Sarkozy, pas celui de Dakar, mais avant d'être élu, où il dit des choses du style le rêve européen n'était pas un rêve de colonisation, mais de civilisation. Alors déjà là,
alors là
ça
aussi
jette
derrière
un
les
froid.
Mots.
voilà, on parle d'Aimé Césaire. Il y a plein de choses. Ça dure pourtant 1h15, c'est très court. Mais voilà, on en ressort. C'est un peu maladroit parfois, c'est un petit peu scolaire à d'autres moments, parce qu'ils sont là, ils sont juste tous les deux, c'est des potes et ils se racontent. Et bon. Mais au final, on passe un très bon moment et on réfléchit beaucoup et on se dit « Ah oui, c'est vrai, c'est pas simple ».
François Eboué, Guy Tenissen dans « Celui qui se moque du crocodile n'a pas traversé la rivière ». C'est à voir du côté de la Samaritaine, signalons aussi la mise en scène de Brigitte Bayeux et de Yaya Mbile Bitang. Donc pour ce spectacle, c'est à voir donc jusqu'au 6 octobre à la Samaritaine, www.lasamaritaine.be.
La conspiration.
De retour dans la conspiration des planches, direction le CAI Théâtre pour danser sur les tableaux de Louise Bourgeois, ou en tout cas avec en décor les tableaux de Louise Bourgeois, Extrême Tension de Oula Sikkel.
Oui, on part au CAI Studio pour la nouvelle création d'Oula Sikkel, qui est une Canadienne installée à Bruxelles, une danseuse qui a fait part et qui a aussi été résidente au studio Le Frénois dans le nord de la France, et qui a vu la rétrospective en 2009 au Centre Pompidou de Louise Bourgeois, où était présentée une de ses dernières séries qu'elle a fait en 2007 à 95 ans, qui s'appelle Extrême Tension, d'où le titre du spectacle, et qui sont 11 grands panneaux sur papier, où l'on voit notamment les mains de Louise Bourgeois en rouge, comme des empreintes, où elle inscrit aussi sur d'autres des parties de son corps. Donc cette série, c'est un autoportrait de Louise Bourgeois à 96 ans. En fait, elle avait 96 ans. Donc on voit son écriture tremblante. Elle écrit LB, ses initiales. Et c'est cette matière qui va servir de source d'inspiration à Oula Sikkel pour ce solo qu'elle a créé pour la danseuse Maria de Kort, qui est une ancienne danseuse qui a un peu plus de 50 ans, qui a travaillé avec Alain Platel, enfin qui a une carrière assez importante, et qui est on est dans le studio qui a été divisé en deux, donc on est au milieu elle est au milieu des gradins, donc il y a un rapport d'intimité qui est d'office créé. Il y a une immense feuille de papier qui est posée sur le sol sur lesquelles vient danser Maria de Kort, et elle va évoquer les 11 tableaux, les 11 peintures de Louise Bourgeois. C'est pas une illustration de sa peinture, c'est vraiment une évocation.
Elle ne redessine pas,
non, du tout. Il y a aussi un musicien qui est dans un coin, Yann Le Guay, qui crée une ambiance sonore, un paysage sonore assez subtil. Donc on est dans quelque chose de très minimal. On est dans une musique qui explore les aigus, les basses, et qui va vers quelque chose de très très mystérieux vers la fin. Et cette exploration, via cette série de Louise Bourgeois, c'est une introspection du corps d'une dame d'un certain âge et de ce que l'on vit quand on a un certain âge par rapport à ce corps, et qui est confronté aussi à les mouvements qui sont différents, les sensations qui sont différentes, plus le souvenir du corps aussi de jeunes filles que l'on a pu avoir, ou de jeunes que l'on a pu avoir. Et je trouve que c'est vraiment très très subtil, et que la présence de Maria de Kort, elle a une présence à la Gina Rollins très très forte. Et donc voilà, il y a tout ce qui me manquait dans le projet de Ghost Road par rapport à Vivienne de Munch, je le trouve ici avec
plus d'incarnation.
Beaucoup plus d'incarnation, de sensibilité, d'émotion, de fragilité. Donc voilà, je vous le conseille.
Le spectacle Extrême Tension, donc, c'est à voir jusqu'au 28, donc ce soir, demain soir et vendredi soir. Les listes d'attente sont de mise, malheureusement, pour ce spectacle. Mais bon, allez-y, allez vous inscrire, et avec un peu de chance, vous pourrez découvrir cette création de Oula Sikkel autour de l'œuvre de Louise Bourgeois, www.caitheater.be. On fait un bond de 150 ans en arrière, enfin presque.
On reste dans le bourgeois.
Voilà. On va du côté du Théâtre Royal du Parc pour Les Misérables, Catherine.
Oui, Les Misérables de Victor Hugo, évidemment. Mm-hmm. Mis en scène par Thierry Debroux. Alors, quasiment tout le monde connaît l'histoire de Jean Valjean,
Cosette,
ancien forçat, voilà, qui va tenter de se refaire et de faire le bien et de sauver Cosette. Et tout ça va finir sur les barricades, pendant les émeutes de 1832 à Paris. tout ça pour évoquer la misère et l'injustice sociale à l'époque. Et donc, c'est très intéressant, évidemment, de le monter aujourd'hui, puisque notre époque n'est pas du tout épargnée par la misère, par la précarité, par l'injustice sociale.
Et ça nous est dit dès le début, d'ailleurs, dans ce spectacle, de la chanson, là, sur les sans-papiers, les pauvres.
Oui, par d'autres parallèles, mais moi, je trouve que c'est ce qui a de moins réussi, justement, dans cette mise en scène. Il y a notamment, donc, au moment où les barricades descendent des cintres, ces barricades sont en fait un agglomérat de lave-linge et frigos qui font penser à notre société actuelle de surconsommation qui étouffe un petit peu le nouveau prolétariat d'aujourd'hui.
Parlons peut-être un petit peu du dispositif scénique, hein, comment il se déroule. En arrière-scène, il y a un décor sur 3 étages, comme ça, qui tour à tour de la pièce se transforme en prison, en bordel ou en HLM. Parce que c'est là, Thierry Debroux veut nous offrir une formule ramassée des Misérables. On est dans un rythme assez soutenu, puisque la pièce ne dépasse pas les 2h15, je crois.
Alors que le roman fait 4000 pages.
Voilà, 2h15. Et il veut l'inscrire dans une certaine contemporanéité, en gardant quand même cette distance et cet aspect révolutionnaire de par les décors, de par les costumes, sauf que parfois les décors justement se transforment en quelque chose de beaucoup plus contemporain, comme ces aspects HLM, puisque finalement, on sait tous, les Thénardier sont d'abord tenanciers d'une auberge un peu miteuse, et finalement quand ils arrivent à Paris, se retrouvent dans un boui-boui de la banlieue parisienne.
Mais je trouve que le décor est très réussi, moi, hein, parce que ça permet en effet un rythme très soutenu, on est presque dans un rythme cinématographique. Et en même temps, par un ingénieux système de parois, ces étages comme ça s'occultent et puis tout à coup ça devient écran avec des belles images, des belles vidéos très élégantes qui donnent beaucoup de cachet à la pièce et la distribution, on s'en sort bien aussi.
Mmh. Olivier Massard est en Jean Valjean, évidemment, le personnage central. On connaît ce personnage aussi pour sa prestance, sa présence sur scène, avec sa belle voix également. Benoît Verhaert fait le percutant Javert, le perçant Javert et le pervers Javert, je dirais même. Avec aussi, c'est sa voix qui m'a marqué également, Benoît Verhaert, dans ce rôle, qui arrive et qui pique vraiment, bien que je trouve que ce personnage ne soit pas suffisamment mis en avant, puisqu'il est vraiment l'espèce de poursuite de Valjean continuelle. Et c'est ça que moi, qui m'a un peu déplu dans ce spectacle, c'est que justement on a voulu faire quelque chose de très dynamique, de très ramassé, et du coup certains personnages et certains moments manquent un petit peu d'ampleur. On pense aux différentes morts, allez, on va pas dire qui, parce que c'est peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas encore, qui meurent dans ce spectacle, mais qui sont quand même, pour moi, je trouve, des moments importants, même si on veut dépasser ça par le thème des révolutionnaires et des laissés pour compte, finalement, les Misérables d'aujourd'hui, ça manque un petit peu d'émotion et de mesure. On est toujours au même niveau comme ça et ça n'est pas assez modulé.
C'est vrai, c'est très agréable à regarder parce que ça va vite et en même temps on a une impression de succession de tableaux, de checklist où on rentre jamais complètement dans les personnages et dans les périodes de cette histoire, mais ça reste quand même un spectacle très agréable.
Tout à fait, et on reste dans cette procédure entamée par Thierry Debroux lorsqu'il est arrivé à la direction du parc, de modernisation un peu de ce théâtre classique auquel nous avait habitués, en invitant des metteurs en scène, ici c'est lui évidemment qui met en scène, mais dans d'autres créations, en invitant des metteurs en scène plus contemporains avec d'autres visions. On avait vu le Roi Lear, par exemple, dans une mise en scène un peu plus contemporaine également l'année dernière. Donc chapeau pour le décor, chapeau pour cette façon de ramasser le récit et de nous en donner l'essentiel. Dommage peut-être pour la modulation des émotions dedans.
Et rappelons aussi que le Tour du Monde en 80 jours qu'avait mis en scène Thierry Debroux en début de saison dernière sera repris à la fin de la saison. Et c'est le même genre de spectacle populaire, grand public, mais qui marche super bien.
Et avec la même scénographe, d'ailleurs, je crois. Voilà. C'est donc Les Misérables, le classique de Victor Hugo, à découvrir jusqu'au 20 octobre prochain. C'est au Théâtre Royal du Parc, www.theatreduparc.be. Très vite, en 2 minutes peut-être, signaler l'éveil du printemps. C'est les 30 ans, un autre anniversaire, tiens, donc, de la compagnie du Théâtre de l'Éveil, qui reprend ici sa première création, en tout cas, mais avec une autre mise en scène. C'est Yasmina Douyeb qui s'y colle. Gold cette fois-ci pour ce texte de Frank Wedekind, un auteur allemand de fin 19e, début 20e, et qui nous raconte un petit peu l'exploration adolescente et la découverte des corps à cet âge-là, notamment aussi la chute de la naïveté qu'on a également par rapport au rapport avec les autres gens de son âge qui veulent aller plus loin, qui avec aussi le poids parental qui est là derrière pour nous parler de tout ça. On parle d'interdit évidemment, et on sait qu'on imagine bien qu'à l'époque ce texte était assez choquant ou provocateur en tout cas pour parler des jeunes de cette manière-là. Alors là aussi il y a une volonté de modernisation de la pièce, hein, Catherine, je crois que tu es d'accord avec moi là-dessus.
Oui, c'était nécessaire, surtout qu'à l'époque actuelle on est moins facilement choqué par l'éveil sexuel des adolescents. Donc c'était un pari difficile, pas tout à fait rempli à mon avis. Ça reste, c'est une pièce qui moi m'a paru assez plate. On sent pas la sève qui monte chez ces adolescents en découverte de leur corps, parce qu'il y a aussi, et puis aussi une difficulté à nuancer les passages entre tragédie et comédie.
C'est transposé à l'époque actuelle.
C'est pas très clair, justement.
En fait, justement, le décor est sur une maison à deux étages, hein, comme ça, qui nous est proposé. Alors, on navigue entre les deux, comme le disait Catherine, entre des costumes qui sont pas vraiment d'aujourd'hui, un petit peu plus anciens, des décors qui sont un petit peu dans cet entre-deux, et finalement, ne se positionnent pas, et c'est un petit peu dommage. N'empêche, je trouve que ce texte, par sa fraîcheur, est toujours encore bien présent, mais justement, la mise en scène ici ne permet pas d'alterner fraîcheur et la gravité de ce qui se passe, parce qu'il y a des choses assez graves qui se passent dans cette pièce.
Il y a question de suicide, notamment.
Ouais, voilà. Et de viol également. Voilà, oui. Comme ça, on dit tout. Frank Wedekind, donc l'éveil du printemps par la compagnie du théâtre de l'éveil, justement, qui fête ses 30 ans du côté du théâtre Le Public, www.lepublic.be. Ça se joue encore quelques semaines. Et enfin, signalons, c'est la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles. N'oubliez pas, demain ou aujourd'hui soir, si vous nous écoutez le jeudi, beaucoup de théâtres offrent des représentations gratuites. Ça ne veut pas dire qu'on peut se pointer comme on veut au théâtre. Il faut s'inscrire également, réserver vos places. Je sais qu'il reste encore des places du côté de Pilate, par exemple, au Carthago d'Elenda Est. Le National aussi offre des places pour Ghost Road. Bref, dans les grands théâtres et dans même les plus petits, n'hésitez pas à aller voir ça. Il y a des concerts, mais pas que, à la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Très vite, Olivier, signalons aussi Life and Times du côté du Kai Theater.
Voilà, c'est une autre exploration de l'adolescence, donc ça vaut la peine. C'est une troupe new-yorkaise qui égrène les épisodes de la vie d'une jeune femme qui raconte sa vie, et c'est vraiment très 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 drôle. Ici ce sera sur la mode de d'Agatha Christie.
Voilà, ça s'appelle donc Life and Times. Merci à vous deux pour cette participation à la conspiration des planches. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour d'autres créations. Profitez-en, allez pointer votre nez dans les théâtres bruxellois, même un petit peu plus loin, il y a plein de choses à voir. On se retrouve mercredi prochain. Belle semaine à vous. Conspiración.